Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre à propos, l'émission hebdomadaire de Radio Rancière qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque, Mgr Philippe Christori, sur des sujets de société internationaux, nationaux et locaux, bien évidemment. Aujourd'hui, eh bien, en international, les Chinois se rebiffent contre les mesures sanitaires d'exception prises par leur gouvernement. Et au Qatar, pour le premier match, l'équipe iranienne refuse de chanter l'hymne national. La résistance ne faiblit pas en Iran. Est-ce qu'il y a un élan irrésistible vers la liberté dans les pays qui en sont le plus privés ?
Bonjour Christophe, heureux de parler avec vous et avec nos auditeurs. De fait, c'est deux pays où les régimes sont des régimes de dictature, où l'alternative politique n'existe pas vraiment, même si en Iran, on vote pour la même cause, les mêmes dirigeants. Et je pense que tous ces gens, effectivement, ont aujourd'hui une maturité, des peuples éduqués, des peuples qui ont accès par Internet à tout ce qu'on peut entendre, même si c'est souvent très bridé, notamment en Chine. Ça passe quand même, comme on dit, les gens voyagent, les gens circulent aussi. Il me semble qu'il y a effectivement une aspiration à la liberté. La liberté, elle est constitutive de l'être humain. L'être humain est un être de relation, la relation authentique appelle la liberté, on a envie d'aller rencontrer les autres, on a envie de découvrir ce qu'ils vivent, et du coup, je pense qu'en Chine, c'est vrai que la Chine a imposé une dictature sanitaire incroyable. Nous, on se plaint de ce qui s'est passé en France, mais chez eux, les gens ont été arrêtés, emmenés de force. J'ai vu des gens qui étaient, il y a quelques mois, qui étaient enveloppés de scotch, de bandes adhésives pour qu'ils ne puissent pas réagir, et par la simple raison qu'ils étaient cas contact possible. Enfin, voilà. Et l'Iran, c'est encore plus terrible. C'est un pays extraordinaire d'histoire, et on voit ces gens qui, depuis la mort de cette jeune femme, qui a été vraiment tuée par la police parce qu'elle avait une tenue vestimentaire qui n'était pas conforme aux strictes règles de l'islam. Elle était tuée et depuis, il y a eu sans cesse, dans tout le pays, des manifestations pour la liberté d'hommes et de femmes. Je pense que c'est un beau signe quand même de l'aspiration des peuples à l'autodétermination, à la liberté, et puis des gens eux-mêmes.
On a vu des images de personnes comme ça, solitaires dans la rue, faire tomber les turbans de mollahs, par exemple. Ce sont des images qui sont assez stupéfiantes. On se dit que là, il faut vraiment un courage assez extraordinaire, mais c'est un courage qui est payé aussi par la vie de nombreuses personnes.
Beaucoup de gens ont été tués. J'ai vu un chiffre de plus de 400 morts maintenant. Ouais. Et puis on a vu effectivement l'équipe de football iranienne qui a protesté, partiellement, en tout cas montrant sa résistance, on peut dire, publique à cette loi terrible qui s'abat sur ce peuple iranien. Là aussi, le sport devrait être un lieu assez neutre politiquement, parce que si on en fait un lieu politique, on recrée les tensions. C'était beau d'avoir un match entre l'Iran et les États-Unis. Mais en même temps, c'est plus fort qu'eux. Ils ont une telle aspiration qu'il faut qu'ils le montrent.
Alors, deuxième sujet qui est à cheval entre l'international et le national, c'est l'affaire, si j'ose dire, de l'Ocean Viking, ce bateau de migrants qui était en errance sur les mers, que l'Italie n'a pas souhaité accueillir, l'Italie qui avait accueilli auparavant de nombreux bateaux, il faut quand même le reconnaître, que la France finalement a hébergé. Et puis les migrants se sont tous évanouis dans la nature. Est-ce que ça pose un problème? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Je crois qu'il y a beaucoup de questions. D'abord, il y a le drame des migrations de folie qui sont contraintes par la pression économique, parfois par les guerres et par les persécutions politiques. Donc c'est un drame incroyable. Je parlais avec quelqu'un pas plus tard qu'hier qui me raconte d'un jeune qui est arrivé en France enfin et qui a voulu appeler sa famille en Afrique parce que il y a eu 2 ans de migration sans contact avec sa famille. Donc il voulait dire, ce jeune homme, à sa famille qu'il était vivant. Donc c'est un drame terrible. Et on comprend qu'ils essaient par tous les moyens de trouver un avenir, une vie, un port, comme on dit, un havre pour vivre. Donc ils vont continuer. Hein. Je pense que par millions, les gens vont encore bouger. Ça, c'est sûr. Après, c'est complexe parce que ce bateau était affrété par une ONG. normalement, le droit de la mer, c'est qu'il faut effectivement secourir les gens, mais les ramener au port le plus proche. Le port le plus proche, ce n'était pas l'Europe, c'était la Tunisie. Donc pourquoi ils n'ont pas été en Tunisie les déposer? Qui les paye? Est-ce que les réseaux de passeurs qui sont très puissants aujourd'hui, c'est un business fantastique, à l'instar de la drogue et des marchés aussi des médicaments en fraude, qui est un marché mondialement énorme. Est-ce que ces gens-là sont un peu liés aux passeurs ou pas? C'est une question qui se pose. Après, c'est sûr que quand on les accueille, nos lois nous obligent à en prendre soin. C'est heureusement, d'ailleurs heureusement, mais on ne les enferme pas dans une prison. Donc, ils ont quitté les lieux assez vite et on se rend compte que ça va recommencer à chaque fois. Donc,
c'est un problème un peu insoluble. Hein. Les ONG sont aussi pointées du doigt parce qu'on s'aperçoit que finalement, ils travaillent en lien avec les passeurs, c'est-à-dire quand les bateaux sont prêts, les ONG envoient des petites lumières clignotantes aux passeurs et les passeurs, hop, font. Ça, c'est un peu délicat. Ça,
je ne sais pas très bien. Ce que je me dis, c'est qu'on peut pas, on n'est pas capable en tant que peuple d'accueillir un nombre trop grand si on veut bien le faire, si on veut bien accueillir les gens, leur enseigner le français. Les écouter, voir qu'ils ont un avenir, etc. Un travail, il faut le faire avec une forme de modération et de moyens techniques. Si ces moyens sont débordés par le flux migratoire, en fait, on casse tout. Et puis, beaucoup de gens vont aller errer Porte de la Chapelle dans des conditions de vie absolument insalubres et une partie iront peut-être malheureusement en prison si, faute de mieux, ils commettent des méfaits. Donc, c'est un problème difficile. Il ne faut pas fuir le problème, il ne faut pas non plus dénoncer sans arrêt avec l'impression qu'il suffit de les mettre sur un vol retour, ça ne marche pas. Complexe, vraiment complexe.
Il faut peut-être tout simplement contribuer au développement de ces pays d'Afrique. Ce que fait, je pense, à une association catholique comme le CCFD, dont on a déjà parlé ici, par exemple.
Non, mais beaucoup de gens essaient de le faire. Le problème de ces pays, c'est que beaucoup de pays sont très très corrompus. Très corrompus. Et puis, ils sont minés par la guerre, comme le Kivu. Au Congo Est a commencé à nouveau par des prêtres d'ici, on sait que ça a recommencé à se battre. Donc on a du mal à aider ces pays quand ils sont aux mains de dictateurs et de puissances qui sont maléfiques objectivement, qui ne servent pas le bien du peuple.
L'Assemblée nationale a voté le 24 novembre dernier une proposition de loi visant à la constitutionnalisation du droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Le Sénat devra se prononcer. Qu'en pensez-vous?
J'en pense beaucoup de mal, parce que je pense que l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, l'avortement, est en France autorisé à 14 semaines. L'IMG, qui est l'interruption médicale de grossesse en cas de grosses difficultés de la maman ou de l'enfant qui a des graves déformations, est permis en France jusqu'au terme, jusqu'à 9 mois. Donc ce droit est acquis par la loi, je le constate, je ne l'approuve pas forcément, mais je le constate. Fallait-il la Constitution, moi je ne suis pas un juriste, mais enfin c'est quand même le texte fondamental qui fonde la vie civile d'un pays. Mettre dans ce texte fondamental un droit à tuer un être humain, un être qui est vivant, qui est certes nourri par le corps maternel, mais qui est autonome, qui a son ADN, qui a son corps propre, qui n'est pas le corps de la mère, c'est pas le même ADN. Donc mettre ce droit de tuer cet enfant, cet être vivant, ça me paraît vraiment insensé. Et puis on arrive à des propos pour le justifier qui sont fous. J'ai vu que la ministre, je sais plus son nom, a dit le fœtus maternel n'est pas un enfant à naître. Alors, pour expliquer que le fœtus, c'est rien, et qu'on peut le détruire, parce qu'il n'est pas un enfant à naître, mais c'est une sorte d'absurdité absolue. Des propos politiques de cet acabit me semblent prendre à contresens le bon sens des gens. Enfin, de quoi parle-t-on? À qui parle-t-on? Donc voilà, je suis frappé par l'ineptie des positions, puis on appelle ça un nouveau droit, une réussite. Les médias féministes approuvent en disant enfin une grande liberté acquise. liberté de mettre à mort un enfant. Moi, je vois aussi le drame pour ces femmes, beaucoup de femmes. Bien sûr qu'une grossesse peut être vécue dans des conditions sociales, maternelles très complexes. Le père peut s'en aller alors qu'il a bien joui de cette femme dès qu'il apprend que la femme est enceinte. Des parents, parfois, ne sont pas un soutien très grand pour des jeunes filles enceintes. Mais quand cet enfant sera tué dans le sein maternel par l'avortement, beaucoup de femmes disent qu'elles le portent douloureusement toute leur vie, qu'elles en souffrent, qu'elles savent quel âge aurait eu l'enfant tel jour. Voilà, il faudrait beaucoup plus de moyens, comme le souhaitait la ministre Simone Veil, pour aider tous ceux qui accompagnent des femmes enceintes dans des conditions précaires pour leur permettre d'achever cette grossesse au mieux, comme le Bercail sur Chartres accueille des femmes enceintes et les accompagne. Et souvent, ces femmes sont heureuses d'avoir un enfant finalement. La vie ne sera pas facile pour elles, mais elles ont un enfant et c'est précieux.
Y a-t-il des cas, cependant, où on peut admettre l'IVG? Je pense notamment aux viols qui sont subis par certaines femmes. Par exemple, en période de guerre, etc., on a vu qu'il y a eu des viols, notamment en Ukraine.
Le viol est monstrueux. Maintenant, l'enfant qui naît d'un viol, il n'a rien demandé. Il est là. Est-ce que le tuer, donc ce mal de tuer l'enfant, va ôter le mal du viol? Je ne pense pas. Ces femmes pourraient mettre l'enfant au monde sous X et le laisser à l'adoption. Il y a tant de familles, tant de couples qui n'ont pas d'enfants, qui voudraient adopter, et si peu d'enfants à adopter, mettez-les au monde et laissez-les à l'adoption. Ces enfants trouveront un couple qui va les accueillir avec amour.
Une dernière question, qu'en est-il de l'attitude donc de l'Église par rapport aux femmes qui ont avorté?
Mais l'Église reconnaît que d'abord la femme souvent est en détresse dans cette demande d'avortement. Pas toujours, mais elle peut être en grande détresse. Nous croyons à l'amour de Dieu, à sa miséricorde. Donc on accueille ces femmes. J'en ai accueilli régulièrement quand j'étais en paroisse curée. On les écoute, on les oriente vers des gens qui peuvent les aider. On n'est pas là pour les blâmer ni pour les condamner. Mais on voit surtout leur souffrance et leur peine. Et je pense qu'on a plutôt envie d'avoir la compassion pour elles. Vraiment qu'elles viennent voir les équipes d'accueil, parler, etc. Elles sont les bienvenues.
Elles ne sont pas repoussées. Merci beaucoup, Monseigneur. Je voulais parler du temps de l'Avent, mais nous n'avons plus le temps. On en parlera la semaine prochaine, bien évidemment, puisqu'il a fait l'objet de votre dernier message fraternel. Merci, chers auditeurs et auditrices. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site www.radiorentiel.fr. À la semaine prochaine. La voix qui...